Bonjour, je suis en compagnie d'Antoine Teschenet.
Bonjour.
Alors, je me retrouve avec toi par rapport à la découverte d'un manuscrit issu du XVIIIe siècle qui s'intitule Le culte des goules et qui aurait été écrit par le comte d'Erlette. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus par rapport à celui-ci?
Par rapport au manuscrit ou par rapport au comte d'Erlette? Qu'est-ce que
Alors,
tu
tout
veux savoir?
d'abord, commençons par le manuscrit.
Alors, oui, d'ailleurs, c'est pas du tout un manuscrit. Moi, j'ai trouvé une édition. J'aurais bien aimé mettre la main sur le manuscrit du comte d'Erlette, mais Dieu seul sait où il se trouve.
Donc, tu es tombé sur une édition facsimilée, en somme.
Je suis tombé sur une des éditions imprimées qui n'a pas été détruite. Et donc, c'est à partir de ce texte qu'on a pu réimprimer, en fait, ce livre qui est un livre absolument fascinant. Et donc le présent ouvrage reprend un peu le manuscrit, enfin le livre tel qu'on l'a trouvé, c'est-à-dire dans un format qui lui est proche, et puis on essaie de remettre en place la présentation, le sentiment qu'on a quand on tourne des pages qui sont des pages vénérables, qui est dans un état assez décati, pour ne rien cacher, quand on l'a trouvé. Et retrouver un peu l'ambiance de ce livre qui est, somme toute, relativement terrifiant.
Alors, pour nos lecteurs qui ne connaissent absolument pas ce livre terrifiant et à la fois merveilleux à contempler, Dieu sait qu'on se perd dans ces pages quand on le lit tranquillement le soir, avec sa petite bougie, avec le vent qui souffle
Sais pas
dehors et
si
la pluie qui
tranquillement.
frappe contre les vitres, et l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de gratter contre la vitre. Peux-tu nous éclairer justement sur l'aspect quelque peu maudit et oublié qui fait que ce livre a été interdit pendant des lustres, traqué par l'Église, brûlé, tout exemplaire était automatiquement pilonné, tout homme ayant eu l'outrecuidance de déclarer qu'il l'avait lu ou qu'il avait fait quelque chose par rapport à ceci était automatiquement traqué et exterminé. Pourquoi?
Bon ben déjà il faut se replacer dans le contexte de l'époque. C'était l'époque où le pouvoir chrétien catholique était enfin, tout puissant et pouvait se permettre de mettre à l'index certains livres. Il s'en est pas privé jusqu'au XVIIIe siècle, et à la fin du XVIIIe siècle, même peut-être même au XIXe, il y a eu des livres mis à l'index. Il se trouve que celui-là était particulièrement gratiné, pour parler crûment. C'est-à-dire que on trouve dedans, d'une part, une position de l'écrivain, le comte d'Erlette, qui est absolument blasphématoire, qui a une réécriture totale de la religion et des religions telles qu'elles existent, qui les organise toutes autour de leur mythe fondateur et qui en gros livre l'humanité en pâture à des déités qui lui veulent du mal. Donc ça forcément, on se doute bien que du côté du Vatican, ça risquait de pas passer, et ça n'est pas passé. À côté de ça, il y a une série de récits, donc c'est vraiment un traité classique du XVIIIe siècle, du XVIIe, XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'on retrouve un plan un peu cartésien, j'ai envie de dire, de présentation de différents épisodes de par le vaste monde, avant d'attaquer une sorte de théorisation de choses absolument indicibles. Abominable. Et puis ensuite, on a des rituels. Et c'est là aussi où, bien évidemment, au XVIIIe siècle, et j'ai envie de dire comme au XXIe, il est hors de question de publier ces choses-là.
Alors justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de publier? Qu'est-ce qui fait qu'à ton avis l'humanité est proche?
Bah,
Si
moi,
ce n'est
je.
qu'en
Ouais.
fait que la fin justement se rapproche.
Moi, je suis comme tout le monde, hein. J'avais entendu parler de ce manuscrit, enfin, de ce texte comme étant un texte fictif. Pourquoi fictif? Parce qu'il y a une vague homonymie entre Auguste Derleth, qui était un pote de Lovecraft, et le comte Derleth, qui ressemble donc Derleth. Et donc du coup on s'est dit, oh, c'est une blague intellectuelle.
Oui,
Et
c'est
donc
un
c'est
jeu
voilà,
entre
c'est
les
un
deux
jeu. Donc du coup
parties.
ce livre n'existe pas. Et
Oui,
voilà.
un peu comme la
Et
correspondance.
puis bon, bah, c'est juste qu'effectivement, au bout d'un moment, nous autres en France, qui est quand même le pays où ce livre est paru, on a commencé à trouver des traces un peu fortuitement, pour ne rien te cacher. Et puis du coup, ça nous a piqué un peu curiosité, et on a remonté le fil, ce qui n'a pas été facile, jusqu'à un endroit où, bing, on est tombé sur le bouquin. Donc à partir de là, c'est sûr que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce bouquin est-il vraiment maudit? Est-ce que vraiment c'est une engeance? Est-ce qu'il faut le publier et que le monde sache qu'il existe vraiment? Très franchement, la question s'est pas vraiment posée longtemps, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire nous une retranscription du livre, et puis on a parlé à des éditeurs, et contre toute attente, il y en a un qui s'est tout de suite dit bing, on y va. Donc moi j'avais clairement envie de faire passer le manuscrit au monde, pour dire c'est un vrai, c'est quelque chose qui existe. Après, c'est clairement l'éditeur qui nous a forcé la main là-dessus.
Ah, donc tu sous-entends qu'il y a bel et bien eu une pression éditoriale?
Enfin, c'est comme si vous arrivez chez un commissaire priseur et vous dites, tiens, regardez, j'ai trouvé le Graal. Et vous avez dans la main le Graal. Bon, effectivement, est-ce qu'on peut mettre le Graal en vente? Je sais pas, mais si vous êtes Arcurial ou Sotheby's, c'est tout à fait. Enfin, vous savez qu'il y a un
Enfin.
marché, vous savez
Je ne
qu'il
peux
faut le faire.
m'empêcher de rappeler à notre aimable auditoria que le Graal est encore la propriété de la famille Jones.
Enfin, malheureusement, la famille Jones a connu quelques revers de fortune, il me semble, et c'est la crise des subprimes a fait beaucoup de dégâts aux États-Unis, et ils ont malheureusement dû s'en séparer. Enfin, ça, c'est une autre histoire.
C'est vrai.
Toujours est-il que donc ce livre est une somme de savoir du XVIIIe siècle et d'avant, de choses qui, finalement, qu'en fait, au bout du compte, on sait tous.
En fait, tu es en train de nous dire que ce culte, pour qui pour la majorité des gens finalement reste scotché un peu à l'image un peu vieillotte de ce charmant aristocrate si raciste mais néanmoins si adorable vivant en Nouvelle-Angleterre, ne remonterait pas au 19e siècle, mais serait en fait que là il s'agirait juste de la cabale d'un écrivain qui a voulu s'amuser très certainement
Non.
pendant deux ou trois trucs.
En fait, ce qui est sûr, c'est que c'est évident que Lovecraft a vu le livre du comte d'Erlé. Lui, enfin, je veux dire, il y a aucun doute dans le fait qu'une partie de sa mythologie vient de cet ouvrage-là. À moins qu'il y en ait d'autres aussi, parce que nous, on a mis la main sur celui-ci, mais finalement, il y a une fraction du bouquin où on retrouve un peu cette mythologie lovecraftienne. Le reste, c'est une analyse des religions. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au XVIIIe siècle, ce type, le comte d'Erlé, dont personne ne sait rien, après tout, ce type nous parle de la mythologie lovecraftienne. Des siècles avant que Lovecraft le fasse. Et ensuite, on sait le succès que Lovecraft va avoir et le fait que des gens dans le monde entier reprennent cette mythologie.
En fait, finalement, si je puis me permettre ce trait d'humour, derrière Cthulhu, il y aurait presque un mythe.
Ça se tient. Exactement, c'est des mythes, enfin, on retrouve à tous les niveaux, on balaye tout là, on repart de l'hindouisme, le christianisme bien sûr, et c'est ça qui est très intéressant, parce que une fois encore, ce livre est écrit à un moment de totalitarisme chrétien, où on ne peut pas se permettre de critiquer la Sainte Foi, l'auteur est très clair sur ce point, il prend toutes les précautions au début, et puis très rapidement, sans changer son fusil d'épaule, c'est assez passionnant la lecture.
Alors revenons justement à l'ouvrage proprement dit. Pour le lectorat qui n'aurait pas eu encore l'immense honneur de pouvoir l'acheter, il faut savoir qu'on tombe sur un très très bel objet. Donc j'allais dire un objet assez grand de taille BD conventionnelle, avec une très belle couverture qui, d'après ce que j'ai compris, reprend le frontispice d'un des, comme tu dis, des facsimilés que se serait fait fabriquer un riche amateur. Et ensuite, j'allais dire, c'est l'émerveillement à n'importe quel niveau. Le contact déjà de chacune des pages, très douce. Le côté, justement, le fait que vous ayez à n'importe quel prix. J'ose même pas de demander quel sacrifice il vous a fallu consentir, à quelle sombre divinité, de reproduire une de ces fameuses éditions interdites. Alors, si je puis me permettre, le livre n'est absolument pas encore complet. On n'est absolument pas sûr qu'il n'existe pas une édition encore plus aboutie, encore plus inavouable, comme par exemple dans les caves du Vatican.
Oui, il y a de toute façon, ce livre est paru, on le sait, il est paru au XVIIIe siècle. Là, c'est très clair aussi que c'est une fraction du livre. C'est écrit dans le livre, hein. Et puis nous-mêmes, on a refait une relecture. Comme je le disais, au XXIe siècle, on ne peut pas non plus tout faire paraître. Hein. Il y a aussi des lois dans ce pays. Donc, on a laissé pas mal de... la somme de savoir est complète. Après, une petite recherche bien sentie permet d'aller un peu plus loin et de trouver les quelques éléments manquants. Et ça, je laisse à chacun le plaisir sombre de faire cette petite recherche.
Alors, par petite contre, chose à préciser par rapport à notre lectorat, c'est que, en fait, tu t'es amusé à faire une véritable édition critique en reprenant vraiment le manuscrit.
Oui.
Ça, là, autant vous prévenir tout de suite, vous avez vraiment le langage usité du XVIIIe siècle.
Alors, comme je dis, il y a eu quand même une relecture de fait, déjà parce qu'il y avait des choses qu'il fallait couper, mais aussi, aussi parce que c'était un texte ancien avec des choses à changer, notamment on ne dit pas la voix, on dit il avait, de manière à rendre la lecture plus fluide. Ceci étant, l'éditeur a décidé de garder le S long. Vous savez, au XVIIIe siècle, enfin jusqu'en 1790 finalement, on avait en édition un S court et un S long. Le S court, celui qu'on connaît, le S classique, se trouve à la fin des mots, alors que le S long se trouve au milieu des mots ou dans le mot. Ce qui rend la lecture un peu difficile, c'est-à-dire qu'au début, au lieu de lire passion, on lit pas fion. Ça ressemble à un F. Et c'est vrai que c'est une difficulté supplémentaire, mais ceci étant, très franchement, passé les quelques premiers paragraphes, on rentre complètement dedans, et c'est un vrai plaisir de lecture de relire un texte ancien tel qu'il était.
Alors, notons également, et je pense que tu seras tout à fait d'accord avec moi, que l'ouvrage est absolument magnifique, qu'à ce niveau-là, les éditions Nemos n'ont absolument pas démérité,
clairement,
des sombres divinités. Une petite remarque, alors ça c'est un de leurs traits caractéristiques ces derniers temps, c'est de faire appel à une police de caractère qui n'est absolument pas noire, pour le coup, on tourne plutôt vers une espèce de marron doré, pour ainsi dire, ce qui fait que l'ouvrage, ça je vous le conseille, la lecture à la bougie ou avec une vieille lampe, c'est absolument magnifique à contempler. De toute façon, la question ne se pose pas, et tu vas très certainement être d'accord avec moi, cet ouvrage mérite de ne pas être lu à la sauvage dans un lit ou affalé dans un canapé, mais clairement sur un lutrin, et chaque page se doit d'être tournée délicatement.
Il faut rentrer effectivement avec respect sacré dans la lecture de ce texte qui donne les clés du monde. Enfin, clairement, on en sort grandi quand même. Cette histoire de teinte, et aussi, alors ça pour le coup, c'est vraiment Nemos qui a fait un excellent travail, puisque le manuscrit qu'on a trouvé, une fois encore, dans un état très décati, hein, on l'a trouvé dans un château abandonné, enfin c'était très compliqué et très... Il a vraiment fallu faire attention à ce qu'on faisait, parce qu'il y avait toute une partie qui était dans un état dramatique. En revanche, c'était clair qu'il n'était pas écrit à l'encre.
D'accord. Le lectorat.
Ensuite, il y a eu, après, toutes sortes de rumeurs, il y a eu des analyses, etc. Ça, je laisse mes mots s'en discuter, puisque moi, je ne fais pas d'analyse de ce texte, je ne suis pas scientifique.
Alors justement, je me suis posé une question, pas forcément scientifique, mais d'un certain point de vue de rationalité. La teinte n'est-elle pas là aussi pour éviter que le lectorat ne devienne pas à moitié fou une fois arrivé aux trois quarts du bouquin? Est-ce que cela ne jouerait pas, en fait, sur une certaine partie de notre cortex pour éviter qu'on devienne totalement barge une fois que certains secrets proprement indicibles nous sont révélés?
Je vous le souhaite, mais je n'en suis pas convaincu. Pour être franc, c'est-à-dire que je pense que malheureusement la teinte a peu à voir avec les vacillements possibles de la raison, la lecture de ce livre. Une fois encore, on a fait un petit travail de nettoyage. Ceci étant, il est... Enfin, la manière dont ce livre a de tout chambouler, de tout représenter sous une lumière sombre et sans espoir, parce que clairement, dans ce livre, il n'y a pas d'espoir. Oui, des gens qui auraient un esprit plus fragile pourraient facilement basculer, clairement.
Alors j'aurais encore quelques questions à te poser. Depuis le départ, tu parles pas en disant « je », mais en disant « nous ». J'aimerais savoir ce que recouvre ce « nous » exactement.
C'est difficile à expliquer. C'est-à-dire qu'effectivement, pour trouver ce livre, j'ai fait appel à différentes personnes, dirons-nous, et que donc c'est un travail d'équipe d'avoir trouvé ce livre.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette équipe?
Je préfère pas, il est encore un peu tôt.
Je vois. Tu parles justement de toute l'aventure, mais je ne parle pas de l'aventure éditoriale qui a représenté l'édition de ce livre. Peux-tu nous en dire plus? Par moment, tu as eu des paroles sibyllines trouvées dans un château, manuscrits qui ne seraient pas manifestement écrits avec de l'encre. Le lectorat veut savoir.
Oui, je sais bien. Mais il y a d'ailleurs, il y a tous ces, surtout ces mythes. Forcément, c'est un livre qui était à l'état de rumeur pendant, c'est quoi, 70 ans, 100, enfin presque 100 ans.
Oui, c'est vrai. Rappelons pour le lectorat que
Les premières traces
ce...
officielles de ce livre, ça date des années 20 ou des années 30.
Et au fin fond des
Et au fin
États-Unis.
fond des États-Unis, qui est un endroit où, a priori, les gens ne lisaient pas des livres du 18e siècle français qui avaient disparu en 1725 ou je ne sais quoi.
Sauf peut-être à Salem, mais à mon avis, à
Oui, voilà,
l'époque, il devait en
bibliothèque de
avoir pas grand-chose.
Miskatonic University. Mais bref, toujours est-il qu'on a énormément de rumeurs autour de ce texte, qui était considéré comme un texte secondaire du mythe de Cthulhu, comme tu l'as si bien dit. Donc du coup, il a fallu, enfin, il faudra voir un peu comment tout s'articule avec ces rumeurs. Mais il y a eu plusieurs éditions aussi. On a beaucoup parlé d'un livre avec une couverture en peau humaine. On a trouvé quelque chose dans un tel état que, bon,
Enfin,
bien
c'était
malin
bien.
qui peut dire d'où venait le cuir, je vais être franc. Mais il y avait, c'est pour ça aussi que l'illustration sur la couverture, effectivement, se fonde un peu sur ce qu'on a trouvé en frontispice et sur la couverture. Mais tout ça aussi, il a fallu recréer un peu l'image principale. C'est quelque chose qui était manifestement resté pendant peut-être plusieurs siècles, dans un environnement confiné, humide, et donc qui avait beaucoup souffert. L'écriture elle-même, donc là, je ne vais pas non plus vouloir confirmer complètement la rumeur, mais je crois qu'il y a quand même un fond de vérité, hein. On dit ce qu'on voudra, enfin bon. Mais il y a quelque chose, et puis bien évidemment, le plus terrible dans cette histoire, c'est le fond du livre. C'est-à-dire qu'il faudra essayer de voir au-delà de la forme, qui est déjà splendide, le fond. Qui lui, pour le coup, vraiment donne un sens au monde qui nous entoure.
Et tu penses que dans un avenir plus ou moins proche, une fois que les vérités finalement nous auront été révélées, ce livre nous permettra de revoir finalement totalement notre vision, j'allais dire non seulement de notre monde, mais aussi de notre univers,
Ben complètement.
voire
Enfin,
même
c'est
les...
vraiment ça que j'essaie de dire. C'est-à-dire que ce livre il a été repris tellement de fois. Alors on va dire le culte des ghouls. D'abord, c'est quoi les ghouls? Donc ça, on pourrait en closer pendant des heures. Le livre, bien évidemment, définit pleinement ce qu'est une ghoul. Mais c'est vrai qu'ensuite, il y a plusieurs interprétations. Il y a des gens qui ont fait un peuple à part entière, etc. Bon, non, tout cela est vraiment ancré dans notre humanité et donne un sens à notre humanité dans le monde. C'est-à-dire que on est sur un livre qui est finalement du même acabit. Qu'un livre, enfin, c'est terrible de dire ça, mais qu'un livre comme la Bible ou le Coran, enfin clairement, il y a des révélations qui sont dedans, et qui ont un sens terrible et puissant et évident. Enfin, je veux dire, clairement, c'est beaucoup plus évident que de dire à quelqu'un, je suis venu, je suis mort pour vos péchés, et du coup, vous allez beaucoup mieux et vous allez être sauvé. Enfin, ça, quelque part, personne n'y croit. Or là, finalement, on a une version derrière qui est quelque part l'exact contraire, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, vous êtes foutu. Et en fait, quand on
On
regarde
retouche du doigt
nos
finalement
vies à la
la foi
lecture de ce
cathare.
livre, pardon?
On retouche finalement du doigt la foi cathare pour
Ben,
les élus et les
complètement, sauf
damnés.
que les cathares continuent d'espérer.
Oui, mais
Alors
très
que,
peu.
alors que, voilà, oui, non, mais eux déjà ils avaient compris qu'il y avait quelque chose qui clochait, qu'il y avait quelque chose qui sentait vraiment pas bon dans notre univers, et là, bah, c'est écrit noir sur blanc, d'un seul coup, bah, on comprend pourquoi on vieillit et on meurt, on comprend pourquoi on perd tout, on comprend tout ça, quoi. On comprend que oui, on est fait pour essayer de survivre et de se faire plaisir, mais que de toute façon, on est condamné à souffrir, que la vie est une vallée de larmes, ce qui est écrit également dans des grands textes sacrés, hein, mais que c'est fait sciemment. Ça va mieux?
Alors, vu que je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette étude, je n'oserais même pas dire de cette apocalypse dans le sens premier du terme, c'est-à-dire de cette révélation. Et je dois l'avouer aussi par rapport aux gens qui nous écoutent, Dieu merci, nous avons eu le soutien de quelques bonnes bouteilles pour pouvoir faire
Bah, il faut
cet
ce qu'il faut,
entretien.
on a peu d'aide par rapport à ce genre de choses, et
C'est
c'est vrai
vrai,
que.
c'est vrai. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai toujours préféré que ma vallée de larmes le soit au fond d'un verre.
Oui.
Vu que tu es le découvreur, finalement, de cet ouvrage, comme tu le répètes, indicible, mais qu'il va bien vous falloir acquérir pour pouvoir comprendre ce qui nous attend, ce qui est même d'ores et déjà en état de marche
Ah
et qu'on ne
oui.
peut plus arrêter. Est-ce que tu cherches aussi d'autres ouvrages maudits?
Après, c'est un peu le syndrome du collectionneur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où cet ouvrage-là existe, on se dit, mais alors si ça se trouve, tous les autres existent. Le Devermis Mystery, le Necronomicon, après tout.
Même la supercherie littéraire que sera
Ben,
le
alors moi,
Necronomicon?
je suis toujours parti du principe que si un tel texte existait, aucun humain ne pourrait l'avoir lu ou ni même l'avoir écrit et que finalement, par définition, il ne peut pas exister. Tous les textes que j'ai vus publier.
J'en connais au moins un qui a pu le lire, un dénommé H. Mais là, on
Non.
parle d'une série de documentaires fait par un type assez obscur et pour le moins particulier. Alors, dans mes souvenirs, il a aussi parlé aussi de cette espèce de mutation propre à une tribu tirée de l'Amazonie qui transformerait des hommes en espèces d'araignées. Et j'ai cru savoir qu'actuellement, il s'intéressait énormément à cette espèce de mythe derrière le miroir d'un pays fantasmagorique avec des magiciens, des créatures, tout
Bah, tout
ça.
ça touche à la même chose, parce que c'est vrai que bon, dans les mythes lovecraftiens, comme dans le culte des ghouls, on parle de dimension. Ce qui est d'ailleurs complètement novateur dans une langue du XVIIIe siècle, parce que
En fait, cet ouvrage serait une porte.
bah, peut-être bien, enfin clairement, y a des invocations, il y a des choses dedans, hein, donc, et puis on se sent regardé quand on le lit clairement. Et donc du coup on trouve ça, cette histoire de tribus qui transforment des hommes en araignées, alors voilà bien typiquement le genre de récit qu'on va trouver dans le culte des ghouls aussi. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie du livre, ce n'est que ça. Ce ne sont que des récits d'hommes qui asservissent d'autres hommes. Et du coup, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins abominable. Et c'est vrai que ça pose pas mal de questions, parce que après tout, ce livre donne des recettes pour le faire. Moi, je ne suis pas un adepte des théories du complot, mais qu'est-ce qui nous prouve que Barack Obama ou François Hollande ne sont pas des marionnettes dirigé par d'autres personnes, il y a quand même des textes dans le culte des ghouls très questionnants sur la manière dont on peut échanger les âmes, dont on peut
Manipuler les
manipuler les
foules.
gens, manipuler les foules,
Ouais.
qui se font sur des exemples en plus vraiment probants. Enfin, il y a des histoires avec Catherine de Médicis,
Alors
etc., où
justement,
quand on regarde dans l'histoire, on se dit, mais oui, effectivement, il s'est passé quelque chose là.
il y a une partie qui est assez intéressante, voire même qui fait même plus flipper que le reste, si c'est possible. C'est cette fin, rédigée avec fébrileté, de manière manuscrite. Où on a l'impression que toi, en tant que découvreur, tu as voulu rajouter ta propre partie de ce que tu avais compris, des tenants et des aboutissants, finalement, de ce culte.
Je préfère ne pas trop m'étaler sur la fin, pour être franc. Mais pour faire simple, c'est vrai qu'effectivement, j'avais rajouté des feuilles manuscrites là où en partie il fallait faire des retouches parce qu'on arrivait dans des moments de rituel où clairement, enfin, il y a quand même dans notre pays des lois sur l'incitation à la haine, sur ce genre de choses. On peut pas, je veux dire, on peut pas tout publier, quoi.
C'est clair. Et
Et voilà,
puis
on
c'est
pouvait pas
vrai
le
que
faire
si
au
on commence
XVIIe
à
et
faire
encore
sortir des
aujourd'hui.
créatures de 6 mètres de
Voilà,
long.
non, mais en plus c'est vrai que là, bon, pour des rituels où il faut chercher des enfants, faire des, enfin, je ne veux pas non plus, mais c'est juste qu'il y a des choses qu'on peut pas publier, point. Donc du coup, j'ai pris sur moi de réécrire une partie en coupant des éléments. Ça aurait été bien effectivement de jouer le jeu, mais moi j'ai pas la langue du XVIIIe siècle, donc c'est sûr aussi. Moi au début, j'imaginais qu'on publierait tout dans les mêmes caractères. Mnemos a publié ça de manière manuscrite. Après tout, je pense que Mnemos avait raison. Mais c'est probablement les pages les plus importantes du livre.
Ah.
Même si, malheureusement, pour des raisons légales, elles sont un peu édulcorées.
Alors justement, ce qui
Mais
m'intrigue,
très peu.
c'est que à la lecture de ces dites pages, là j'étais en face de moi, tout se passe très bien, on est en train de disserter. Pour pasticher un célèbre sketch des Guignols, il y a des cahuètes et il y a à boire.
Une petite
Christine.
prune, Christine.
Christine, les cahuètes. A pu? J'ai eu le sentiment qu'on avait affaire finalement à quelqu'un de complètement cinglé à la fin. Qui perdait pied face à quelque chose qui devenait tellement lourd, tellement énorme à contempler.
Peut-être que c'est le cas. Là, le souci aussi de ces histoires-là, c'est que d'un seul coup, il n'y a plus de vérité, tout devient une sorte de boule à facettes qui renvoie des tonnes d'images qui tournent très vite, Et du coup, tu me vois moi, mais est-ce que je suis vraiment la personne qui a trouvé ce livre? Est-ce que je ne suis pas déjà manipulé par d'autres entités parce que j'ai lu ce livre jusqu'au bout? Est-ce que j'ai pas moi un intérêt particulier à faire publier ce livre? Ça, c'est à chacun de se former, de former sa réponse. Je ne sais pas si tu dois au moins être inquiet. Tu verras bien.
Certes.
Ça va, t'es
Une
rassuré?
dernière petite chose avant de partir?
On ne peut pas jamais partir très loin. Cette planète est
Oui.
petite et ronde, donc de toute façon.
C'est faux. Elle a la forme d'une patate.
Une petite patate ronde.
Bazinga.
Une binge.
Une dernière chose. Est-ce que tu serais sur le point de faire une autre découverte après ce culte des ghouls?
Enfin, il est tôt pour répondre, mais déjà, on a fait qu'au tome premier. Enfin, donc, du coup, puis comme je dis, il y a des choses que j'ai édulcorées, il n'est pas du tout dit que je les fasse pas publier plus tard. Et puis, je n'ai pas trouvé qu'un livre, là où j'ai trouvé celui-ci.
Oh,
J'ai trouvé d'autres choses.
je vois.
Mais tout, enfin, je veux dire, là, il faut prendre un peu le temps aussi de la respiration. Je ne pensais pas du tout que ce culte des ghouls serait publié, pour être franc. Parce que c'est vrai que. Oui, c'est un texte qui est connu, où il y a tous les rôlistes, etc., qui connaissent, qui veulent se l'approprier. Mais je ne pensais pas qu'aujourd'hui, un texte du XVIIIe siècle qui est un traité puisse s'intéresser à ce point-là, même
Mais
si.
c'est vrai
J'aurais
qu'à ce
plutôt vu dans un
niveau-là,
truc ésotérique où j'en sais rien.
saluons justement le courage ou la folie,
Oui, je pense
vu
qu'on
qu'à
peut
mon
plus
avis,
parler de folie.
l'un comme l'autre vont de pair, des éditions de Nemos pour avoir décidé, en toute conscience et en toute connaissance de cause,
Mais
de rendre cette chose,
c'est sûr que
finalement,
chez
visible aux
Mnemos,
yeux du grand public.
j'ai pu voir mes interlocuteurs changer au fur et à mesure de la lecture. C'était assez intéressant aussi de voir ça.
Ah, il est vrai que ça, je peux témoigner aussi pour ma part, pour les avoir contactés. Au début, j'ai senti que c'était qu'ils étaient un peu tièdes. Et puis ensuite, il y a eu une espèce d'invitation à il faut aller le voir, il faut en parler. C'est très bien ce que vous faites.
Exactement. C'est exactement ça.
Mon cher Antoine, je te remercie pour ces quelques moments où j'ai eu le sentiment d'avoir un être cher contre qui me serrait. Et au moins, on aura peut-être pu tous les deux serrer de nos mains tremblantes cette bougie pour éclairer ce que finalement nous n'aurions jamais dû voir.
Mais que malheureusement, nous ne pourrons plus jamais quitter du regard. Je suis navré de te l'apprendre.
Certes, sur ce, soufflons la bougie.
Merci.